Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci de votre confiance. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne. 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Et nous allons commencer avec cette affaire qui secoue le football espagnol. L'affaire Vinicius. Si vous avez, complètement raté l'actualité de ces derniers jours, je vous rappelle que dimanche, l'attaquant brésilien du Real Madrid a une fois de plus été la cible de cris de singe pendant le match contre Valence. Indignation nationale en Espagne, scandale également à travers le monde avec de nombreuses réactions de personnalités du football, du sport. En Espagne, c'est aussi la classe politique qui a donné de la voix tout au long de la semaine. Et vous aussi, sur nos réseaux sociaux et au standard d'appel sur l'actualité, c'est le cas notamment de Tommy. Bonjour.
Bonjour, bonjour Juan Gomez.
Vous êtes au Gabon, à Libreville, et vous souhaitiez réagir à l'affaire Vinicius.
Exactement, je souhaiterais donner mon point de vue par rapport à l'affaire Vinicius. Alors, afin d'éviter que ce genre de choses ne se reproduisent, voici l'une des solutions. On doit multiplier les stadiers dans les stades afin d'identifier physiquement qui sont véritablement ceux qui chantent. Et les mettre dehors et puis quitte à fermer même le stade. On doit multiplier les stadiers. Comme ça, quand les chants commencent, allez, on identifie, on les met dehors. Oui. Si c'est tout un groupe, on ferme la tribune.
Alors, fermer la tribune, c'est ce qu'a décidé de faire la Fédération espagnole. Elle ferme la tribune Kempes à Valence pour 5 rencontres. Est-ce suffisant ou pas? Ou faut-il encore aller plus loin?
Alors, c'est déjà l'une des solutions. Il faut véritablement aller plus loin. Une fois on a fermé la tribune, ils ont interdiction à vie de revenir dans les stades. C'est parce qu'ils commencent à chanter 1, 2, 3, 4 personnes et puis après tout le stade entonne cette même chanson qui est déplorable.
Oui, alors là, juste pour rappeler les faits, Tommy, ce n'est pas tout le stade de Valence qui a poussé des cris de singe à l'endroit de Vinicius. Ce sont quelques supporters. D'ailleurs, certains d'entre eux ont été interpellés dès mardi par la police espagnole. Et il a fallu cette bronca nationale pour que, on va dire, pour que les autorités prennent le dossier au sérieux. Le président de la Liga, président du championnat espagnol, Javier Tebas, a assuré qu'il a transmis 9 plaintes depuis le début de la saison pour des incidents à caractère raciste subis par Vinicius. 9 plaintes. Et pour l'instant, la justice n'a rendu aucun verdict. Donc c'est aussi peut-être à la justice d'accélérer le traitement de ces dossiers. Tommy, ne raccrochez pas, vous restez en ligne. Je vous présente Blaise. Il est à Kinshasa. Bonjour Blaise.
Bonjour Monsieur Juan et bonjour aux auditeurs de la Radio du Monde.
On vous écoute. Dans quel état d'esprit êtes-vous après cette affaire?
En tout cas, c'est frustrant et malheureusement, c'est pas une première fois. Aujourd'hui, on parle de Vinicius par rapport à ce qui s'est passé récemment avec Valence. Mais on oublie que Vinicius a été victime plusieurs fois, notamment à Barcelone, et Valoïde, Mallorca, etc. Mais moi, je pense qu'il était temps effectivement que la pendule soit remise à l'heure. Vous savez, Monsieur Gomez, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord sanctionner les équipes. Et moi, je pense que d'ailleurs, le Real Valladolid l'avait prouvé. Vous savez qu'il a sanctionné certains de ses supporters après les actes de racisme, en fait, avec de peines allant de 3 à 4 ans, en fait, d'interdiction du stade. Et je pense que ce sont ces genres d'actes, bien sûr, qui doivent faire évoluer les choses.
Et pour faire évoluer les choses, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, et je pose la question à Blaise et aussi à Tommy, tout simplement quitter le terrain? C'est ce qu'a dit d'ailleurs le patron du Real, Florentino Pérez, en s'adressant à Vinicius. Il lui a dit, si ça se reproduit et que vous ne quittez pas la pelouse, c'est moi qui vais me fâcher, on ne va plus rien laisser passer. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que le Real quitte la pelouse de Valence dimanche dernier?
Bien sûr, il fallait que le Real le fasse. D'ailleurs, rappelez-vous, en Champions League, Paris Saint-Germain était face à un club turc et il y a Koulibaly qui a été traité des négros. Et qu'est-ce que Mbappé a demandé à ses coéquipiers? Il les a dit, écoutez, quittons le terrain. ne joueront plus, ils ont arrêté le match. Et ça, c'était un acte à féliciter. Moi, je vous dis, rassurément, Mbappé, c'est pour moi, ce jour-là, c'était le capitaine du Paris Saint-Germain. Vous savez, ce genre de choses doivent se passer partout d'ailleurs. Ça, Dani Alves, il a été victime. Vous vous rappelez, en 2014, il a reçu des bananes sur la figure. Il n'est pas le seul, il y a Balotelli, etc. Mais il faut prendre des décisions courageuses, quitter surtout les stades et bien sûr suivre ces supporters qui ne cessent d'insulter le joueur pour qu'il soit sanctionné plus tard.
Tommy, il faut quitter la pelouse la prochaine fois.
À mon avis, quitter la pelouse, ce serait donner raison à ces chanteurs racistes. C'est plutôt eux qu'on doit bouter des stades et non l'équipe qui doit sortir du stade. On les identifie et on leur donne interdiction à vie d'assister au match. Parce que si on quitte la pelouse, il y a beaucoup qui sont venus, il y a 99% qui sont arrivés pour regarder agréablement un match. On ne va pas quitter un match et puis les priver de ce qu'ils sont venus voir à cause d'un individu qui raconte des bêtises.
Ouais, mais peut-être que j'entends votre réflexion, Tommy, mais peut-être que le fait que le Real passe à l'acte la prochaine fois obligera la Liga, la Fédération espagnole à prendre des sanctions plus sévères. En tout cas, merci à tous les deux. Tommy, je vous souhaite une bonne journée à Libreville. Merci à Blaise qui nous appelait de Kinshasa. Le débat se poursuit évidemment sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité. On va parler de la Mauritanie. Vous avez suivi sur notre antenne que le pays a organisé il y a 2 semaines maintenant des élections législatives, régionales, municipales. C'était le 13 mai. Depuis lundi, nous connaissons les résultats. Victoire sans appel du parti au pouvoir. L'opposition dénonce des élections qui sont entachées, je cite, de fraude énorme. L'opposition, mais aussi une partie des partis de la majorité présidentielle. Bonjour Mohamed.
Bonjour, monsieur Erwan.
Et merci de nous appeler de Nouakchott. On vous écoute. Comment analysez-vous les résultats de ces élections?
Eh bien, je peux dire que ces élections ont été entachées pour les faits suivants. Tout d'abord, les représentants des partis en course n'ont été acceptés dans les bureaux de vote que bien 2 heures après le début des votes pour venir constater que les urnes ont déjà été remplies de votes. Ça, c'est déjà un. Le deuxième constat, c'est que il y a dans certains bureaux le nombre de votants est supérieur au nombre des inscrits. Ceci, c'est un point d'interrogation. Oui. Donc, dans des bureaux...
À vous entendre, la liste des imperfections est longue. Ça veut dire que vous soutenez la prise de position des opposants comme celle de certains partis de la majorité présidentielle qui réclament la reprise du vote dans certains endroits, dans certaines villes, par exemple à Nouakchott, la capitale. Allô, Mohamed ? Alors, on l'a perdu. Que se passe-t-il depuis quelques jours ? On perd des auditeurs en pleine discussion. Alors, c'est frustrant, évidemment, pour moi, pour eux et pour tous ceux qui nous écoutent. On va essayer de rappeler, évidemment, Mohamed, dans un instant. Au standard, au 33 9 693 693 70. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les Congolais qui me suivent en ce moment.
Oui, vous nous appelez de la République démocratique du Congo, où après la répression de la marche de samedi à Kinshasa, hier, 4 figures de l'opposition ont tenté de manifester devant la commission électorale pour dénoncer l'opacité dans les préparatifs des élections de décembre dernier. Vous-même, Emmanuel, vous disiez au standard, heureusement qu'hier, il n'y a pas eu de violence devant le bâtiment de la commission électorale.
Bien entendu, Juan Gomez, il n'y a pas eu de violence parce que nous avons une police requinquée depuis l'avènement du nouveau régime. Ça, nous l'avons tous constaté, tous les Congolais l'ont constaté. Il n'y a pas eu vraiment de bévue policière et par-ci par-là par rapport à la marche passée.
Mais Juan, je vous... Attendez, Emmanuel, excusez-moi, vous dites qu'il n'y a pas eu de bévue. De quoi parlez-vous exactement? Hier, vous parlez d'hier?
Parce que je parle d'hier, lors du sitting.
À mon avis, il y a beaucoup d'auditeurs en ce moment, il y a beaucoup d'auditeurs en vous écoutant qui doivent se dire,
oui,
attendez,
bien entendu, où vit Emmanuel,
parce que samedi, il y a eu des dérapages.
Il y a eu des dérapages, ça je le dis, comme ça se passe partout chez vous en France, aux États-Unis, partout au monde. Ce n'est pas une invention congolaise. Mais Rouen, il faut aussi rappeler à nos amis, ces dérapages ont été commis où? Ça même vous de la presse étrangère, vous n'en parlez pas. Ces dérapages ont été commis dans des lieux qui n'étaient pas autorisés à pouvoir investir les manifestants. C'est ça.
Oui.
C'est un élément de taille qu'il faut informer au monde entier.
Oui, mais alors attendez, Emmanuel, Emmanuel, essayons de dialoguer un tout petit peu.
Oui,
à vous entendre, vous nous reprochez certainement de ne pas avoir dit, et on l'a dit, je pense, à plusieurs reprises, que la manifestation... Attendez, je termine ma phrase. Emmanuel, dialoguons, je termine ma phrase, vous ne savez pas ce que je vais vous dire. Que la manifestation de samedi était autorisée, elle était autorisée, simplement les opposants n'ont pas voulu respecter l'itinéraire imposé par le gouverneur de Kinshasa.
Justement,
voilà, oui.
Ça a été autorisé, mais les manifestants n'ont pas respecté les trajectoires ou les itinéraires indiqués par l'autorité urbaine. Donc ça là, partout... Tout le monde, même en France, même aux États-Unis, même dans le pays des vieilles démocraties, la police doit rétablir de l'ordre, doit réprimer.
Oui.
Ce n'est pas une invention congolaise, Rouen.
Oui, vous l'avez dit.
C'est pour ça que moi je vous... Oui, justement.
Vous dites que la police doit réprimer. En tout cas, l'ONU a condamné la répression de cette marche, tout comme la Conférence épiscopale du Congo. Réaction également de l'Union européenne. Condamnation également des États-Unis, de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC. On vous retrouve dans un instant, Emmanuel. Le temps peut-être de vous déplacer, car le réseau téléphone n'est pas très bon là où vous êtes précisément. Ludovic, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Kolwezi également en République démocratique du Congo et vous au contraire, vous pensez et vous comprenez en tout cas la démarche des opposants en voulant manifester.
Oui, je comprends la démarche des opposants. Nous sommes dans un pays démocratique. Déjà, nous avons une CENI qui est déséquilibrée. Toutes les personnes qui gèrent la CENI actuellement sont d'un seul camp politique. Je pense que leur... revendication en leur demandant de pouvoir revoir le bureau de la CENI, c'est très important parce que nous devons avoir des élections impartiales. Il y a aussi le problème du fichier électoral qui doit être revu. Les opposants, ce qu'ils demandent, c'est une demande légitime. Le fichier électoral doit être revu.
Et
nous avons beaucoup de problèmes avec ce fichier.
Vous dites qu'il y a beaucoup de problèmes avec le fichier. Les experts qui ont été sollicités par la commission électorale ont dit en conférence de presse en début de semaine, le fichier est fiable. Il est fiable, il est crédible et il est prêt pour les élections.
Mais si le fichier il est fiable, il est crédible, qu'on laisse encore d'autres experts pour pouvoir auditer ça. Nous avons besoin de plusieurs audits pour être sûrs. C'est quand même des élections, c'est des élections que nous voulons impartiales, nous voulons des élections crédibles, que ne soient pas entachées de beaucoup de problèmes. Déjà avec les répressions que nous voyons là maintenant, nous avons beaucoup de doutes.
Vous avez des doutes sur la transparence dans l'organisation des élections. Emmanuel disait
exactement.
Quelque chose, et il a raison de le rappeler. La manifestation de samedi, elle n'était pas interdite, elle était autorisée. Le problème, c'est que l'opposition...
Exactement.
Enfin, je dis le problème. Ce qui s'est passé, c'est que l'opposition n'a pas voulu suivre l'itinéraire imposé par les autorités. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une part de provocation dans les rangs de l'opposition?
Non, je ne pense pas que ça soit de la provocation. Je ne crois pas que ça soit un problème pour un Congolais de se déplacer dans son pays. J'admets que l'autorité urbaine a donné des limites à cette marche. C'était tout à fait correct pour pouvoir sécuriser tout le monde. Mais nous ne devons pas tomber dans une répression, comme dans la répression dans laquelle nous sommes tombés. Même des enfants, vous vous rendez compte?
Un mineur,
ça, ce n'est pas normal.
Un enfant de 13 ans, effectivement, qui a été carrément passé à tabac par les forces de sécurité. D'ailleurs, le président Tshisekedi a rendu visite à cet enfant qui est hospitalisé. Et je précise que, côté policier, il y a également eu des blessés. Hein. 27 policiers blessés, certains sont encore hospitalisés. Comme promis, Emmanuel, je vous redonne la parole très vite. Visiblement, vous êtes sorti, il n'y a plus d'écho.
Oui, justement. Juan, je voudrais dire à mon compatriote qui a parlé avant moi de comprendre que, je l'ai dit ici, la marche a été autorisée. Mais nos amis de l'opposition n'ont pas respecté les itinéraires donnés par les autorités. Sur ce point, nous sommes d'accord que lorsque vous ne respectez pas les itinéraires, que fait la police? La police rétablit de l'ordre comme ça se passe partout. Et la police a fait son travail, il y a eu zéro mort.
Ça, il faut aussi que vous le disiez, même nos amis, il faut qu'ils se le disent.
Y a eu,
la police a fait son travail.
D'accord. Alors, en tout cas, vous êtes beaucoup plus indulgent que le ministre congolais des droits humains, qui, lui, a regretté les actes commis par les forces de l'ordre. Il a condamné, je cite, les actes de répression, de brutalité contre les manifestants. Donc, vous êtes plus clément que le gouvernement. Emmanuel, merci infiniment, en tout cas, de nous avoir appelés. Très bonne journée également à Ludovic, qui nous appelait de Kolwezi. Autre sujet qui suscite également un vif débat, c'est le procès d'Ousmane Sonko au Sénégal, poursuivi pour viol par une ancienne employée d'un salon de massage. Vous avez suivi certainement le compte-rendu de ce procès qui a duré 17 heures. Le procureur a requis 10 ans de prison pour viol ou 5 ans pour corruption de la jeunesse. Réaction immédiate d'Ousmane Sonko qui dénonce évidemment ce réquisitoire et qui surtout appelle ses militants à l'accompagner jusqu'à Dakar. Il est en ce moment à Ziguinchor. Il veut aller jusqu'à Dakar, 500 km par la route. Il veut organiser ce qu'il appelle une caravane pour la liberté. Djibi, bonjour.
Bonjour Juan.
D'où appelez-vous exactement, Djibi? Vous êtes au Sénégal, mais dans quelle ville?
Je suis présentement à Kaolack.
À Kaolack, très bien. Soyez le bienvenu. Ouais. Que vous inspirent les événements de la semaine dans votre pays?
Vous savez, j'ai une déception par rapport à ce procès-là. Pour la simple raison qu'on criait ourdi et partout qu'ils ont des preuves contre Ousmane Sonko. Mais lors du procès, tout le monde a constaté, aussi bien les nationaux que la communauté internationale, qu'ils n'ont présenté aucune preuve, aucune preuve. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un sans fondement, pour la bonne et simple raison que c'est un leader. Il est aimé par tous les Sénégalais. Ils ont de l'espoir en Ousmane Sonko. Et pour tout simplement l'empêcher d'être candidat en 2024, et donc, on fait de l'acharnement contre lui.
Et donc pour vous, c'est clairement un complot?
Mais évidemment, on ne peut pas accuser quelqu'un de viol. Alors que le certificat médical le disculpe, celui qui a fait l'enquête le disculpe, les témoins le disculpent. Tout le monde sait qu'il n'y a pas viol, il n'y a même pas problème entre Ousmane Sonko et la dame.
Bon, on verra le verdict jeudi prochain. Est-ce que vous êtes inquiet?
Non, mais bien sûr, vous savez pourquoi? Nous avons une justice qui ne rend pas justice. Une justice injuste face à cette justice-là, on ne peut qu'être inquiet. Il y a pas mal de procès qui sont passés entre ça. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est toujours en faveur des camps du pouvoir. Vous voyez le procès contre Mambaïnia. Ce qui n'a jamais existé au Sénégal a pu exister.
Ouais. Vous restez en ligne, Djibi, donc à Kaolack. Ousmane est à Dakar, il me semble. Bonjour Ousmane.
Bonjour Juan.
Bienvenue, merci de débattre dans la libre antenne. Que vous inspire le procès d'Ousmane Sonko cette semaine et surtout cet appel à marcher sur les routes du Sénégal, 500 km jusqu'à Dakar, pour, je le cite, le combat final?
Bon, pour le procès, tellement nous avons entendu des versions, moi personnellement, j'attends la décision du juge pour véritablement connaître ce qui s'est passé. Actuellement, c'est le juge qui est habilité à trancher sur ce sujet. On a reçu tellement de versions du docteur, de la personne qui ne veut pas comparaître devant Adissar. Alors, la justice est en train de faire son travail. Nous allons attendre la décision finale. Par rapport à son appel à la convergence à Dakar de marcher jusqu'à Ziguinchor, le Sénégal est un pays démocratique, le Sénégal est un pays de droit. Nous avons des forces de l'ordre capables véritablement de mettre de l'ordre au pays. Ousmane Sonko, qu'il sache que ce qui s'est passé en mars 2021 ne va plus se reproduire au Sénégal.
Donc plus de violence, plus d'émeutes.
Plus de violence et... le président de la République a lancé l'appel au dialogue et beaucoup de partis politiques, beaucoup d'acteurs, beaucoup de Sénégalais qui sont épris de justice ont répondu à cet appel. Oui. Donc ce que Ousmane Sonko veut, le pouvoir ne s'est jamais gagné dans la rue au Sénégal et ne se gagnera jamais dans la rue au Sénégal.
En tout cas, le porte-parole du gouvernement a rappelé hier que les gens avaient le droit de manifester au Sénégal, mais il a prévenu, hein, les autorités seront fermes face à toute tentative de trouble à l'ordre public. Nous ne laisserons personne troubler la quiétude des Sénégalais. Fin de citation. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler la semaine prochaine. Merci à tous, c'était passionnant. On se retrouve lundi, 8h10, temps universel. Vos questions, vos réactions sur l'actualité. Tiens, lundi, on va parler de la pollution plastique avec en toile de fond des négociations la semaine prochaine à Paris pour tenter de trouver un traité international luttant contre la pollution plastique. On en parle lundi. Prenez soin de vous.
Atlantique Assurance Côte d'Ivoire, filiale du groupe panafricain Banque Centrale Populaire, vous a proposé appel sur l'actualité.
Atlantique Assurance, en toute confiance.